Réplique « De quoi demain sera-t-il fait ?» avec Nicolas Bavré et Alain Minc. Au moment de la chute du mur de Berlin, l'opinion occidentale était convaincue, dans sa grande majorité, que l'économie de marché et la démocratie représentative allaient, après avoir vaincu leur dernier adversaire idéologique, conquérir le monde. Liberté plus bien-être, c'était la formule gagnante. Et si elle ne régnait pas encore partout, elle semblait être l'objet d'une aspiration universelle. Dans son best-seller hegélien, La fin de l'histoire, Francis Fukuyama a donné ses lettres de noblesse philosophique à cette certitude heureuse. L'opinion éclairée est aujourd'hui désabusée. Elle a perdu sa bonne humeur. L'avenir ne lui paraît plus prometteur, mais menaçant. La grimace a succédé au sourire. L'inquiétude a remplacé l'optimisme. Une inquiétude dont témoignent deux livres qui paraissent simultanément « Violence et passion »,« Défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle » de Nicolas Bavré et « Une humble cavalcade dans le monde de demain » d'Alain Minc. Parmi les sujets de préoccupation communs à ces deux auteurs, il y a la montée des populismes. Alors partons de là, si vous voulez bien, d'autant plus que l'actualité nous y invite. Qu'est-ce que le populisme? Où sévit-il et quelles en sont les causes? Nicolas Bavré.
Comme vous l'avez dit, finalement, les années 90, ça a été la décennie de l'illusion de la fin de l'histoire. La décennie 2000, c'est le krach du capitalisme mondialisé. Et puis, la décennie 2010, c'est le krach de la démocratie. La politique se venge avec, d'un côté, le retour des grands risques géopolitiques, le djihadisme, les démocratures, les risques liés au cybermonde et un choc intérieur aux démocraties, avec ce qu'on pourrait dire d'ailleurs plutôt les populismes que le populisme, parce que il en existe des formes très différentes, d'extrême droite, d'extrême gauche, ou le sécessionnisme catalan, ou encore la Ligue du Nord en Italie. Ce qu'on trouve derrière ces mouvements, et ce qui fait leur point commun, je pense que c'est d'abord le culte de dirigeants charismatiques, le culte de l'homme fort. Ensuite, la dénonciation des élites et le fait de jouer sur les passions collectives, des passions qui sont à la fois protectionnistes, nationalistes et xénophobes. Donc, les explications qu'on peut donner à ce mouvement, c'est d'abord la déstabilisation des classes moyennes par la mondialisation et par la révolution numérique, les séquelles du choc de 2008, parce qu'on a finalement sauvé in extremis les banques et l'économie mondiale, mais on a perdu les citoyens des pays développés au passage, et on le paie très cher aujourd'hui. Évidemment, une dimension culturelle, la peur face à l'islam, face à l'immigration, et puis également une légitime anxiété devant ce retour des risques stratégiques et l'idée que finalement, les démocraties traditionnelles sont impuissantes pour gérer ce nouveau contexte.
Et est-ce que vous diriez donc que le populisme est une dérive dangereuse ou qu'il comporte, Nicolas Bavré, des éléments positifs nécessaires qu'il faudrait prendre en compte?
Ah ben je crois que depuis Thucydide et la guerre du Péloponnèse, on sait que le premier risque pour les démocraties, ce sont des risques intérieurs. C'est la démagogie qui a fait tomber Athènes. Et aujourd'hui, on avait déjà connu des risques comparables dans les années 30. Et aujourd'hui, les démocraties vivent leur moment le plus difficile et le plus délicat depuis les années 30, avec cette rencontre à la fois d'immenses transformations du monde qui sont à la fois économique, technologique, on y reviendra sûrement, écologique, stratégique, le retour des menaces extérieures, et puis cet éclatement intérieur. Et j'allais dire, si on veut faire la comparaison avec le krach de 2008, ce qui est intéressant, c'est que de même que le krach de 2008 était arrivé au cœur de la politique monétaire et a priori de l'endroit qui devait être le plus stable, eh bien aujourd'hui, ce choc populiste, il a pris corps avec le Brexit et l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il a touché le cœur du monde démocratique avec à la fois la démocratie la plus ancienne et la plus respectable normalement, la démocratie britannique, et puis la démocratie la plus puissante du monde, les États-Unis, qui étaient normalement à la fois le héros et le gardien et le réassureur du capitalisme et de la sécurité des autres démocraties. Et tout ça, aujourd'hui, a volé en éclats avec Donald Trump. Et c'est une autre dimension extrêmement préoccupante, c'est-à-dire que il y a un choc en retour, ça sape ce qui restait d'ordre mondial, et ça fait donc un monde beaucoup plus dangereux, où les démocraties sont beaucoup plus divisées et où elles sont en même temps beaucoup plus fragilisées en leur sein.
Sur les causes du populisme, je ne reviens pas, parce que peu ou prou, je crois que le tableau a été fait par Nicolas Bavray, on le partage tous. Je voudrais ajouter 3-4 nuances. La première, c'est qu'au fond, on juge les phénomènes à partir de son propre tempérament, et je crois que Nicolas est plus pessimiste que je ne le suis. Et je voudrais donc utiliser un plus relatif optimisme pour donner un ou deux contrepoints. Premier contrepoint, on a vu apparaître, en Espagne d'abord et en France, avec l'élection de Macron, quelque chose qui est très nouveau, c'est ce que j'appelle le populisme mainstream. D'habitude, le populisme conduit nécessairement à l'extrémisme, de droite ou de gauche. Le populisme tel qu'il est apparu en Espagne avec le mouvement Ciudadanos, qui vogue vers le pouvoir à très grande vitesse, et comme l'a été le phénomène politique lié à l'élection de Macron, est un populisme dont le ressort idéologique est absolument inverse, puisque c'est un populisme très européen d'esprit, très respectueux de l'économie sociale de marché et du mécanisme de la démocratie représentative.
Et pourquoi l'appelez-vous populisme ?
Parce que le ressort est le même, c'est-à-dire je veux me débarrasser de l'appareil de pouvoir préexistant. Je considère que les élites en place méritent d'être basculées, mais au profit de nouvelles élites, à la différence du populisme extrémiste qui dit qu'il n'y a pas place pour les élites. Donc ça, c'est une nuance. Je ne dis pas que le populisme mainstream va gagner, mais en tout cas, le panorama est plus complexe qu'il ne l'était. Deuxièmement, il y a un débat au fond institutionnel derrière la montée du populisme à travers des régimes qui se mettent en place et qui riment avec cette pulsion que sont les démocraties illibérales ou les démocraties turques, comme dit Nicolas, c'est un mot intelligent. C'est pas un joli mot, mais c'est un mot intelligent. Et qui ramène à un vieux débat. C'est est-ce que la démocratie, c'est le règne absolu du suffrage universel, ou est-ce que la démocratie, c'est le suffrage universel contrôlés par des jeux de pouvoir et contre-pouvoir qui peuvent en limiter l'exercice. Et ça nous ramène au débat idéologique de la Révolution et des premières années du XIXe siècle. Ce qui est clair dans ces démocratures, qui sont en ligne complète avec une montée populiste, c'est qu'ils reviennent à la conception le suffrage universel peut tout imposer et donc il n'y a pas de pouvoir et de contre-pouvoir. Dernier élément qui est un laboratoire et qui est l'Italie depuis dimanche. Ce qui me frappe en discutant avec plusieurs de mes amis italiens, bon observateurs de la scène locale, c'est qu'ils sont moins pessimistes que nous. Pourquoi ? Ils font le pari, en tout cas si Cinque Stelle va au pouvoir, que la force des choses les ramènera en fait dans le lit commun d'une démocratie et de l'économie de marché. Et ça, c'est très intéressant de voir si un populisme qui n'est pas ramené idéologiquement à une pensée très extrémiste. Il y a de tout. C'est une auberge espagnole, si je puis dire, le populisme Cinque Stelle. Est-ce qu'il va rentrer dans le lit de la démocratie ? Je l'espère. Mais que les Italiens les plus informés le pensent renforce la petite pointe d'optimisme que je veux amener dans ce débat.
Alors, justement, je voudrais repartir de l'Italie et vous soumettre, en la commentant, une réflexion de Guillaume Perrault dans Le Figaro. Il dit ceci: « Des masses d'Italiens ont eu le sentiment que leur volonté résolue d'un changement radical en matière d'asile, d'immigration et de nationalité ne pourrait trouver une expression ni bien sûr au Parti démocrate, ni même à Forza Italia, prisonnière de son europhilie inconditionnelle et solidaire des règles juridiques contraignantes imposées par l'Union. Une majorité du pays a ainsi rappelé à ses élus qu'ils n'étaient pas là pour la surveiller, mais pour exécuter sa volonté. Ça me fait penser à une réflexion de Dominique Régnier. Pour qualifier le populisme actuel, Dominique Régnier parle de populisme patrimonial. Et moi, je m'interroge, pourquoi n'y a-t-il pas d'élitisme patrimonial? Pourquoi les élites se sont-elles retournées contre l'héritage? Pourquoi l'ont-elles bazardé? Pourquoi l'ont-elles abandonné au peuple ou une certaine partie de ceux qui affirment le représenter? Parce que le populisme patrimonial affirme le droit à la continuité, le droit à la continuité historique. Et la peur qu'il exprime, c'est pas forcément la peur de l'étranger, c'est la peur de devenir étranger chez soi. Et son europhobie, c'est aussi le sentiment que l'Union européenne n'en a plus rien à faire de la civilisation européenne. Elle réduit l'Europe à des valeurs et à des normes. Elle considère que l'immigration est un besoin fondamental de l'Europe. Et j'ai sous les yeux une interview de Stephen Smith dans Causeur, où il dit « L'Europe va s'africaniser, c'est inexorable. » Mais si l'Europe s'africanise, ben ça veut dire qu'elle ne sera plus tout à fait européenne. Donc il y a dans l'europhilie qu'on oppose au populisme, une sorte d'europhobie, puisque, au fond, le souci de la civilisation européenne n'anime pas les principaux représentants de l'Europe. Alors, je me fais peut-être ici l'avocat du diable, mais c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, Nicolas Bavré, s'il n'y a pas quelque chose de positif à retenir de cette inquiétude, de cette insécurité que ce qu'on appelle le populisme exprime. Nicolas Bavré.
Alors, dans les causes du populisme, il y en a trois. Il y a trois grands risques. Les problèmes économiques et sociaux, faible croissance, chômage, ça c'est beaucoup plus vrai en Europe du Sud, ça n'est pas vrai en Europe du Nord. Ensuite, il est bien vrai que la question de l'immigration est un point commun partout, dans tous les pays développés. Et puis, on a enfin les risques sur la sécurité. Ce qui s'est passé en Europe, il s'est passé finalement avec Schengen la même chose qu'avec la monnaie unique. On a créé une monnaie unique avec des institutions qui étaient insoutenables. On savait que s'il y avait un choc externe, les choses seraient très difficiles. C'est ce qui s'est passé à partir de 2009 sur la zone euro. Schengen a été créé comme un espace de libre circulation sans aucune forme de contrôle des frontières extérieures. Et ça, c'est quelque chose de parfaitement irresponsable et d'insoutenable. Et donc aujourd'hui, les peuples sont fondés à dire que ce principe de libre circulation qui est positif ne peut vivre que si on a un contrôle effectif des frontières extérieures de l'Union, ce qui passe par la mise en place d'une police des frontières et puis, d'une manière générale, d'une Europe de la sécurité. Donc ça, ce point-là, il est tout à fait fondé. Et ce qui est vrai également, c'est que, de toute manière, l'Europe et les différents pays qui la composent n'ont pas réussi à articuler une politique sensée vis-à-vis de l'immigration et des réfugiés, qui soit une politique où on reste un continent ouvert, mais où en même temps on contrôle strictement les entrées et l'admission sur le territoire européen. Donc il est vrai que cette question a empoisonné l'Europe, que Mme Merkel, dont vous rappelez le génial bon sens, mais là il a connu une énorme faille. Mme Merkel a fait une erreur considérable en 2015. Elle a une responsabilité majeure dans cette vague populiste qui déferle aujourd'hui. Et effectivement, l'immigration n'est pas la seule raison, mais elle est clairement un facteur commun entre ce qui se passe dans tous les pays européens et ce qui se passe également aux États-Unis.
Ah oui, nous reviendrons sur les États-Unis. À la main.
Une remarque, et puis je veux répondre à votre propos. Vous avez été non pas l'avocat du diable, mais l'excellent avocat d'un très mauvais diable. Donc voudrais y revenir. La remarque d'abord, c'est que nous avons une grande responsabilité dans l'affaire italienne, parce que nous avons transformé l'Italie en une cage pour 600 000 migrants illégaux. C'est-à-dire la manière, y compris nous, Français, nous avons pas voulu participer à un mécanisme de gestion de ce phénomène migratoire, a évidemment poussé les Italiens dans les cordes. Mais je voudrais revenir sur deux points que vous avez dit, en particulier à propos des élites. Parce qu'au fond, c'est le thème, le peuple. Je crois aux classes sociales encore un peu, de moins en moins, mais je ne sais pas ce qu'est le peuple. Je ne sais pas ce qu'est le peuple, parce que quand en 2005, on me dit que le peuple a gagné contre les élites, si les élites, c'est 45% de la population, ça fait un pays très démocratique. Vous avez dit, les élites sont au fond globalisées. C'est qu'elles sont en totale négation de leurs racines. Je ne le crois pas. Je pense qu'on peut être profondément français et européen. Je pense qu'on peut être aussi attaché à la langue française et à la francophonie que vous l'êtes, et un militant acharné européen. Et je me reconnais personnellement dans cette double définition. Donc, je ne pense pas que c'est la globalisation. Les élites considèrent qu'il y a des problèmes qui ne peuvent être traités qu'à un niveau supranational. Mais ils ne sont pas en négation de ce qui fait notre identité culturelle. Troisième point de votre propos, qui est le propos de Stephen Smith sur l'Afrique, que je partage, parce que dans mon petit bouquin, il y a un chapitre sur le sujet africain. Il faut bien voir que la pression démographique africaine va être telle que ce que nous vivons aujourd'hui en matière d'immigration, c'est vraiment de la roupie sans sonner. On ne peut pas, avec 4 milliards d'Africains à la fin du siècle, ne pas penser que si les inégalités de développement s'accroissent, ce qui risque d'être possible, parce qu'il faudrait que la croissance économique africaine soit au moins égale à la croissance de la population pour espérer une relative stabilisation du phénomène. Donc nous sommes très simplement devant un choix, c'est-à-dire où nous faisons un gigantesque plan Marshall pour l'Afrique, et c'est Madame Merkel, avec son bon sens, qui a été la première dirigeante européenne à convoquer une conférence sur ce sujet, où on sera face à un flux de migration que nous n'avons aucune chance de contrôler. Et je pense que c'est une question que, quand on a une vision un peu longue, les hommes d'État devraient mettre sur la table européenne de toute urgence.
Oui, mais en même temps, c'est ce que dit Stephen Smith dans son livre « Une ruée vers l'Europe », ce ne sont pas les Africains les plus pauvres qui choisissent la voie de l'immigration vers l'Europe, ce sont ceux qui, justement, ont atteint un seuil minimal de prospérité. Et il va même jusqu'à dire que l'aide au développement, aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée, favorise l'immigration. Donc on se dit que ce plan Marshall devrait être mis en œuvre, mais on n'est pas absolument sûr qu'il arrêtera les flux migratoires. Et là, j'en reviens à l'inquiétude que j'exprimais tout à l'heure. Je pense que chez ceux qu'on appelle populistes, ou chez la fraction du peuple qui se reconnaît dans les arguments du populisme, il y a non pas une haine de l'Europe, mais une inquiétude pour l'Europe. Et d'ailleurs, on peut le voir avec l'Europe centrale. Vous avez tout à fait raison de parler l'un et l'autre, soit de démocrature, soit de démocratie illibérale. Mais il y a aussi, partagé par presque tous les habitants, même ceux qui s'opposent à Orban ou au frère Kaczynski, le refus de voir ces nations se transformer en sociétés multiculturelles. Chantal Delsol le disait dans Le Figaro l'autre jour, c'est-à-dire que les Européens de l'Ouest disent à ceux de l'Est « vous êtes des attardés » et ceux de l'Est disent à ceux de l'Ouest « vous êtes des suicidaires ». Et c'est là le grand malentendu, la grande fracture entre les deux Europes, mais qui a aussi des répercussions à l'intérieur des pays occidentaux. Et la question est de savoir comment on va s'en sortir.
Nicolas Bavré. Le fait d'avoir des inquiétudes pour l'Europe, c'est parfaitement légitime. L'Europe a été fondée après donc la Seconde Guerre mondiale sur la résistance à l'Union soviétique, la garantie de sécurité américaine et le contournement du politique et du stratégique par l'économique et par le droit. Et puis le couple franco-allemand. Bon, tout ça a volé en éclats. Poutine n'est certes pas sympathique, c'est le modèle des démocratures, mais ça n'est pas Staline. La garantie de sécurité américaine aujourd'hui, malheureusement, elle est assez largement aléatoire. Et par ailleurs, le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est justement de faire de la politique politique et de faire de la stratégie. Parce que ce dont on a besoin, c'est de souveraineté en matière fiscale, en matière commerciale, en matière numérique. On a besoin d'une Europe de la sécurité. Et par ailleurs, ce qui est compliqué, c'est que cette Europe est de plus en plus divisée. Les Britanniques partent, et je crois qu'ils partiront quoi qu'il arrive. Et à l'inverse, on a une double division qui réapparaît autour des projets du président de la République, une division entre le nord et le sud de l'Europe sur la gestion de la zone euro, et puis entre l'est et l'ouest sur la question des migrants et des valeurs de la démocratie. Donc, le fait qu'il y ait une vraie situation de crise, un environnement qui est aujourd'hui très dangereux, puisque je rappelle que si c'est un continent qui se vit en paix éternelle, mais si on part de la Baltique et qu'on va jusqu'au Maroc, il n'y a pas une zone de paix, il y a uniquement des zones de guerre, de chaos et de crise tout autour des frontières européennes. Donc, l'anxiété, elle est parfaitement légitime. Le problème maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette anxiété. Soit on est dans le lâche soulagement, on reste comme on a effectivement, les choses vont très mal se passer, soit on essaye de reconstruire une Europe qui est adaptée à ces nouveaux risques du 21e siècle qui ne sont pas les problèmes de l'après-1945.
Je voudrais rebondir avec évidemment une pointe plus optimiste. Je pense que Poutine et Trump nous rendent un formidable service. Le vrai père de l'Europe, d'ailleurs, Nicolas Bavrez a dit, mais plus encore que les autres, c'est Joseph Staline. C'est-à-dire que Staline a compté beaucoup plus que Monet dans la construction de l'Europe. Et en particulier, en la matière, la position allemande est clé. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, qu'une Russie molle et qu'on croyait sympathique était en train de naître, les Allemands se sentaient le centre de l'Europe, beaucoup plus qu'ils se sentaient occidentaux. Évidemment, à partir du moment où ils se sentent menacés par la Russie, y compris avec les aléas sur leur approvisionnement en gaz, ils se retournent vers l'ouest du continent et en particulier vers nous. La disparition de la garantie américaine va nous obliger à nous prendre en main. Quand, revenant du sommet du G7, où M. Trump a fait preuve de son sens aigu des facéties stratégiques, Mme Merkel a déclaré à ses électeurs « Maintenant, j'ai compris que nous pouvons compter sur nos propres forces », c'est un propos qui, en effet, pousse à ce que dit Nicolas Bavrez, c'est-à-dire à une position, à une Europe beaucoup plus stratégique. Je voudrais dire, d'ailleurs, que nous devons avoir en tête nous, Français, car à l'intérieur de cette Europe, on peut la considérer comme un univers de coopération compétitive, disons. Nous retrouvons, nous, un avantage relatif qui est notre position stratégique. Quelle est la seule force de frappe à l'intérieur de l'eurozone et de l'Union européenne après le départ des Anglais? C'est la force de frappe française. Et quand on pense qu'il y a déjà des think tanks à Berlin, ça paraît surréaliste, qui se demandent si il faut que l'Allemagne soit dans la zone de protection nucléaire française, c'est-à-dire dans l'espace sanctuarisé, ce sont des pensées qui auraient été totalement iconoclaste il y a encore 3 ans. Alors, je crois qu'on peut penser que de la même manière que la crise de la zone euro, au fond, a obligé la zone euro à faire un pas en avant, je pense que l'Europe ne progresse que dans un espace international dangereux et non pas dans un espace irénique. Et d'une certaine façon, l'Europe a régressé du temps où on pensait que tout allait bien. Après, les questions sont fondamentales et la plus difficile, ce n'est ni la question stratégique, ni la question économique. C'est en effet le problème de l'attitude de l'Europe face aux migrations. C'est la manière de faire ce que Nicolas Bavrez a dit, c'est-à-dire il n'y a de libre circulation que s'il y a un contrôle efficace aux frontières de l'Europe. Mais pourquoi quand même? Vous êtes emprunt de vos préjugés, Alain Finkielkraut?
Non,
c'est pas quand même.
Non, je ne suis pas du tout emprunt de
mes
préjugés.
On les touche, ne vous inquiétez pas. C'est pas dévalorisant.
Ce qui me semble, c'est-à-dire que c'est ce que vous dites est contradictoire avec communiqués du Conseil européen ou de la Commission européenne. Je lis un communiqué du Conseil cité par Michel Tribala. L'immigration est une caractéristique permanente de la société européenne. Si le flux d'immigrants est géré correctement et méthodiquement, les États membres sont gagnants sur de nombreux plans, l'économie sera plus forte et la cohésion sociale et le sentiment de sécurité seront plus grands, sans oublier l'avantage que représente la diversité culturelle. Et l'Europe est aujourd'hui chez ses défenseurs, chez ceux qui se disent europhiles, purgés de toute dimension culturelle pour se réduire à l'adhésion à des valeurs et à des normes. C'est l'extension du patriotisme constitutionnel d'Habermas à l'Europe tout entière. Des valeurs, des normes, le marché, le droit.
Vous d'abord, avoir des valeurs, j'aimerais bien savoir en quoi ce n'est pas civilisationnel. Je veux dire, je crois qu'il y a chez tous les responsables européens, et en particulier les responsables politiques, un sentiment très profond de notre identité, qui est celle que vivent les jeunes. Quand les jeunes vont dans des summer camps américains, ils se retrouvent comme par hasard entre Européens. Pourquoi ? Parce qu'ils partagent un patrimoine commun, ils ne le formulent pas comme les gens de notre génération pourraient le formuler, mais ils le vivent. Quant au problème des flux migratoires, il faut d'abord aussi garder aujourd'hui raison. Quel est aujourd'hui le solde migratoire en réalité pour un pays comme la France ? Le solde officiel, moins de 100 000, entre ceux qui entrent et ceux qui sortent, car il y a des gens qui sortent. Le solde avec la partie d'immigration clandestine, bon, 200 000. Bon, c'est un problème, ça se gère. Moi, je crois que le problème, il est demain. En revanche, il est absolument inacceptable de ne pas gérer de façon égale cet afflux de migrants. Et donc, nous ne devons pas pleurer de ce qui est en train de se passer en Italie. Nous avons contribué à le fabriquer. Mais ne croyez pas que vous avez une tendance à penser que les partisans acharnés de la construction européenne sont des bisounours. Moi, je crois que c'est l'inverse des bisounours. C'est-à-dire tous ceux qui pensent que l'Europe peut se défaire sont des bisounours parce qu'ils ne mesurent pas la force des dangers qui, dans ce cas-là, la menacent.
Alors, vous citez dans votre livre, Nicolas Bavret, René Girard. « Il faut réveiller les consciences endormies. Vouloir rassurer, c'est toujours contribuer au pire. » Alors, nous avons parlé du populisme. Vous dites « réveiller les consciences endormies ». Concrètement, ça veut dire quoi ? Quelles sont les autres menaces ? Quels sont les autres dangers qui se profilent à l'horizon lointain et même proche ? Nicolas Bavret.
En fait, après l'écroulement des idéologies du XXe siècle, on a donc cru que la violence et la guerre étaient terminées. Et on a complètement sous-estimé le renouveau des passions religieuses et des passions nationales. Donc, on a vu de fait émerger ce que j'appelle ces régimes qui sont les démocratures, qui sont des régimes qui se présentent comme de véritables alternatives à la démocratie qui arrive maintenant et qui progresse à visage découvert. C'est le cas de la Chine, qui, depuis le 19e congrès et maintenant que M. Xi Jinping est au pouvoir sans limitation de durée, explique et programme la manière dont elle va prendre le leadership mondial et succéder aux États-Unis. Monopole du PC à l'intérieur, croissance chinoise réservée aux entreprises et aux salariés chinois, conquête de la mer de Chine et projection de puissance avec les routes de la soie, plus de 1 000 milliards de dollars d'investissement le long des infrastructures critiques de la mondialisation, y compris d'ailleurs sur le cybermonde. Ça, c'est une stratégie qui est extrêmement cohérente. Côté Vladimir Poutine, c'est une stratégie très originale parce que c'est une économie extrêmement faible, qui pèse aujourd'hui à peu près le 15e de l'économie chinoise, mais un investissement très fort uniquement sur le hard power, le nucléaire, le militaire et ensuite la projection de puissance diplomatique, stratégique et militaire. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ça paye également. Donc, on a cette première montée, les démocratures, des régimes très clairement qui désignent les démocraties comme leur adversaire principal, qui entendent progresser territorialement, mais aussi politiquement, et qui peuvent utiliser, comme on l'a vu par exemple, l'arme cybernétique pour peser dans les scrutins majeurs des démocraties. Ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas pour le référendum sur le Brexit, sur le référendum catalan. Il y a une tentative sur l'élection française, mais qui a été beaucoup moins réussie. Donc, premièrement, la démocratie a de nouveau aujourd'hui des adversaires.
Des adversaires extérieurs à elle, quand même.
Voilà. Organisés, qui ne forment pas, totalement un axe, mais qui se rapprochent quand même et qui peuvent avoir des intérêts convergents. Donc là-dedans, on a au moins la Chine de Xi, la Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan, et d'une certaine manière, l'Iran également des Mollahs. Deuxième grande menace, c'est le djihadisme. Donc l'État islamique en tant qu'État est clairement défait au Levant, mais d'abord on a des groupes armés qui agissent depuis le Nigeria jusqu'aux Philippines, en passant par l'Afghanistan, évidemment encore le Moyen-Orient, et surtout le djihadisme se reconfigure aussi comme un réseau social au cœur des sociétés développées. Et ça, c'est effectivement un défi très compliqué à relever pour les démocraties en termes d'ordre public. Et enfin, on a l'arrivée, et ça c'est, puisque on parle du monde de demain, l'arrivée du cyber, qui en soi ouvre un nouveau champ de confrontation, mais qui interfère aussi avec les deux, le djihadisme avec la dimension du réseau social, et puis les démocratures, comme on l'a dit, puisqu'elles projettent des activités criminelles, des manipulations de scrutin, et aussi de la puissance stratégique à travers. Donc, c'est vraiment ça qui est important, le retour d'un certain nombre de grands défis stratégiques majeurs, et qui font aujourd'hui des démocraties des cibles, alors même qu'elles sont fragilisées et divisées.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette énumération, Alain Marc ?
J'ajouterai une nuance, mais je reviendrai sur le sujet des États-Unis, dont on n'a pas parlé.
Ah oui, j'aimerais qu'on en parle. Bon,
la nuance, c'est qu'il y a chez Poutine un côté quand même, comme l'Union soviétique, de géant au pied d'argile. Car à la fin des fins, il faut avoir l'économie de ses ambitions. Et je ne suis pas sûr que Poutine a de quoi satisfaire les quelques années devant lui de pouvoir totalitaire et jouer sur la scène internationale. Je ne suis pas sûr qu'à long terme, la faiblesse de l'économie russe, l'effondrement de la démographie russe, l'incapacité russe d'accepter des immigrés, fait que la Russie demeurera un joueur très important. La Chine, c'est d'une toute autre nature. La vraie question sur la Chine, au fond, sur laquelle nous ne savons rien, c'est est-ce que la Chine se contentera d'être impériale ou voudra être impérialiste ? Quelle est la nuance entre impérial et impérialiste ? C'est qu'on peut être impérial avec beaucoup d'influence. Être impérialiste suppose des conquêtes territoriales. Et au fond, on saura la nature profonde de la Chine, à cet égard, si elle décide ou non de mettre la main sur Taïwan.
Sur Taïwan, oui.
Si elle met la main sur Taïwan, c'est qu'elle est dans une reconquête territoriale. Peut-être. Je n'ai pas de pronostic et je trouve qu'aucun d'entre nous n'est en état de l'avoir. Mais je voudrais revenir aux États-Unis parce que on ne peut pas penser que même si la présidence Trump ne double pas la mise et si Trump n'est pas réélu, je ne crois pas qu'on puisse penser que c'est une simple parenthèse et qu'on reviendra au jeu antérieur pour deux raisons. Sur le plan international, d'abord parce que Trump est la face immensément vulgaire de la même politique dont Obama était la face immensément sophistiquée et civilisée. C'est-à-dire le retrait des États-Unis pour une part du monde. Et donc, ça, je crois que c'est une ligne de grande pente, d'ailleurs très commune à l'histoire américaine, qui a oscillé entre de longues périodes d'isolationnisme et de beaucoup plus brèves périodes d'interventionnisme. La deuxième question, vous l'avez soulevée par incidence, à propos du monde Internet. Au fond, on avait cru que les États-Unis seraient, c'était la vieille distinction au moment de la guerre d'Irak, une puissance de hard power, c'est-à-dire Jupiter, mais on peut plus dire Jupiter, c'est un mot qui a été francisé, et que l'Europe, enfin c'était Mars en fait, c'était
pas juste, et Vénus.
Je crois qu'en fait, les États-Unis sont désormais plus Vénus que Mars. C'est avec les GAFA et leur domination financière qui, après la crise, est redevenue écrasante parce qu'ils ont beaucoup mieux géré que nous la crise financière et la crise du système bancaire. Et j'en reviens à votre préoccupation, Alain Finkielkraut, sur l'Europe. Sur les GAFA, il n'y a de réponse qu'européenne. Aucun pays individuellement n'est capable de répondre. Les Européens donnent une réponse par l'intermédiaire de Madame Furstegger, assez efficace, mais qui ne deviendra efficace que le jour où les Américains se rendront compte que cet enjeu de pouvoir excessif les concerne individuellement, en tant que citoyens au premier chef. Mais donc, quand on veut montrer la nécessité de l'Europe, je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple que le monde Internet, car tout le monde tout le monde, même un électeur de Mme Le Pen ou de M. Mélenchon, ne peut que reconnaître qu'il n'y a pas de réponse aux frontières géographiques d'un vieil État.
Oui, mais d'un autre côté, vous disiez, Alain Minc, que l'isolationnisme, dans sa version la plus hargneuse et la plus vulgaire qu'incarne Trump, était une bonne nouvelle pour l'Europe parce qu'elle obligeait celle-ci à se prendre en main. Mais si j'écoute bien Nicolas Bavré, on a quand même beaucoup à craindre de l'absence de leadership américain, parce que ça crée un désordre mondial, économique et stratégique, qui expose l'Europe. La Russie est peut-être un colosse au pied d'argile, mais ce n'est pas le cas de la Chine, vous l'avez dit vous-même. Il est vrai, vous avez raison, qu'il a fallu Pearl Harbor pour que Roosevelt sorte l'Amérique de son isolationnisme, qui était très très fort jusqu'en 41, en dépit de la guerre déclarée par Hitler à toute l'Europe. Mais justement, est-ce qu'on n'aura pas à pâtir aujourd'hui, en tant que Français et en tant qu'Européen, de cet isolationnisme américain, Nicolas Bavré?
Il faut se garder des comparaisons historiques, mais quand même, il faut tenir compte de ce qui s'est passé dans les années 30. On avait une très grande crise du capitalisme, un changement de leadership mondial, la montée de régimes qui étaient les régimes totalitaires opposés aux démocraties. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30? On a eu exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la séparation des États-Unis de l'Europe et puis la division de l'Europe avec notamment une politique anglaise qui s'est mise à être complètement... qui a été dans le déni de la montée de l'hitlérisme. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de risques. On peut souhaiter que l'Europe réagisse. Il y a quelques signaux d'un réveil de l'Europe, mais pour l'instant, on a eu quelques discours. Il faut être clair, il n'y a pas d'acte. Et il y a quand même aussi des raisons de s'inquiéter. Quand on regarde, par exemple, le pacte de la grande coalition allemande, c'est vrai qu'on parle de l'Europe, on commence par l'Europe, c'est positif, mais alors que l'Allemagne a 38 milliards d'excédents, elle ne prévoit de réinvestir que 2 milliards en 4 ans dans sa défense, alors que l'effort de défense allemand est de 1,2% du PIB. C'est complètement irresponsable. Donc, il n'y a pas de réponse automatique. Aujourd'hui, c'est vrai que tout commande de renforcer l'Europe. Mais les choses ne sont pas du tout faites et c'est vrai que la pression du populisme n'aidera pas forcément. Donc, voilà pourquoi c'est très important d'arriver au-delà des séquelles de l'ère Trump qui vont être très profondes, parce que c'est clairement la fin du leadership des États-Unis qui a commencé en 1917, parce que Trump démantèle avec les traités de commerce, avec la fragilité des traités d'alliance. Trump démantèle tout ce qui a fait justement le soft power des États-Unis. Et c'est un investissement de plus d'un siècle qu'il est en train de liquider. Et l'autre aspect très important, c'est que tout ce multilatéralisme qui avait évidemment des qualités mais aussi des défauts, mais qui permettait quand même de désarmer une partie de la violence du monde, qui permettait aux gens de se rencontrer, tout ceci est en train d'être désintégré. Prenons au-delà du problème de l'acier. L'OMC, donc l'Organisation Mondiale du Commerce, a un organe de règlement des différends qui permet, au lieu de prendre uniquement des mesures de représailles, de soumettre des différends devant des juges. Il y a 7 juges qui sont nommés pour 4 ans. Les États-Unis bloquent la nomination de 3 des juges sur 7. Donc il n'y en a déjà plus que 4. Et comme ils bloquent systématiquement, bientôt il n'y aura plus de juges à l'OMC pour pouvoir régler des différends commerciaux. Donc ces différends commerciaux ne pourront être réglés que par des représailles des uns et des autres. Tout est comme ça et c'est vrai que les États-Unis aujourd'hui sont un facteur considérable d'aggravation des dangers et de l'insécurité du monde.
Je vais évidemment prendre le versant optimiste parce que sinon il n'y aurait pas de débat. On est à un moment très intéressant de la construction ou de l'amélioration de la construction européenne. Je crois que le premier enjeu, dans le contexte tel qu'il est, il est franco-allemand. C'est-à-dire, est-ce que avec un gouvernement allemand très pro-européen, de ce point de vue, le fait qu'il y ait grande coalition, ce qui est peut-être une très mauvaise nouvelle à long terme pour l'Allemagne, est en revanche pour la construction européenne une très bonne nouvelle, parce que la coalition dite jamaïcaine de Mme Merkel faisait aux libéraux une part et un pouvoir de veto très important. Donc je crois qu'il faut recommencer, et je pense qu'on va voir quelle sera la substance du nouveau traité de l'Élysée qu'a proposé Emmanuel Macron et dont le principe a été accepté par Madame Merkel. Je crois que c'est d'autant plus nécessaire que pour forcer le renforcement de l'eurozone, il faut compter ses alliés. L'Espagne à coup sûr, l'Italie, ça ne sera probablement pas un adversaire, mais certainement pas un moteur. Les petits pays du Benelux. Donc, il est clair que la clé est dans la main du président français et de la chancelière allemande. Après, il y a la gestion de l'Europe à 27. L'Europe à 27, si le renforcement de l'eurozone se fait, pas seulement sur le plan économique, y compris sur le plan stratégique, l'Europe à 27 devient un espace beaucoup plus mou, et d'ailleurs dans lequel les Anglais auraient pu rester. J'ajoute un point, puisqu'on parle assez peu des Anglais, qui nous concerne, nous Français, et qui est fondamental. Dans la bataille de négociations qui tourne autour du Brexit, il nous appartient de laisser le mauvais rôle aux Allemands. Pourquoi ? Bad guy, good guy. Pourquoi ? Parce que nous avons, nous Français, des intérêts militaires, stratégiques, en matière de services de renseignement, en matière diplomatique, en matière de présence à l'ONU européenne, que nous ne partageons qu'avec le Royaume-Uni. Peu de gens savent que dans le traité peu connu de Lancaster House, le Royaume-Uni a transféré ses essais nucléaires en chambre, ces simulations nucléaires des ordinateurs américains sur les ordinateurs français. Ce qui prouvait d'ailleurs une conscience de l'évolution du monde anglo-saxon peut-être plus sagace qu'on ne l'avait à l'époque imaginé. On peut faire beaucoup d'erreurs et tout peut se terminer mal, mais il y a quand même un espace de négociation, d'ouverture et de progrès.
Oui, alors vous dites que cette grosse coalition peut être à long terme dangereuse pour l'Allemagne à la main, parce qu'elle offre, c'est ce que j'ai cru comprendre, un boulevard à l'AFD, qui risque de devenir le seul parti d'opposition, l'alternative für Deutschland.
Oui et non. D'une certaine façon, le caractère assez populiste du Parti libéral est peut-être une chance que l'insatisfaction qu'il faut canaliser n'aille pas nécessairement vers l'AFD, mais vers un parti qui appartient au cercle démocratique, même s'il fait à sa manière ce que fait le parti Les Républicains sous l'égide de Wauquiez.
Voilà. Votre sous-titre, Nicolas Bavré, c'est « Défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle ». Tous les pays s'interpénètrent et puis c'est l'heure de la mondialisation. Mais l'histoire universelle, ça évoque l'idée d'un train dans lequel nous serions tous embarqués. Alors qu'il me semble, et d'ailleurs votre livre le montre, que nous assistons plutôt à une collision des trains, à un choc des temporalités. Et c'est cela qui me semble, c'est-à-dire que les différents acteurs de la scène mondiale n'ont pas le même agenda, n'ont pas le même calendrier. Les djihadistes ne vivent pas la même histoire que nous. Donc, et c'est peut-être à ce choc-là qu'il est particulièrement difficile de répondre, Nicolas Bavré.
Justement, ils vivent la même histoire que nous, mais les temporalités et les valeurs sont différentes. Donc, dans cette histoire universelle, il y a des forces qui rapprochent le capitalisme, les technologies, puis il y a des forces de divergence qui sont les valeurs, les institutions, les passions politiques et les foi religieuses. Et c'est vrai que les forces de segmentation ont, depuis le krach de 2008, pris le dessus. C'est bien une histoire universelle parce que tous les hommes la partagent. Et que, de fait, on l'a, d'une certaine manière, le djihadisme, on l'a bien vu avec le Bataclan, et de manière tragique, avec le Bataclan, Nice et les autres grands attentats qui ont sévi en France. Une partie de ces attentats ont été organisés à Raqqa et donc en Syrie. Ce qui est frappant, en revanche, c'est que les acteurs ne vivent pas, de fait, la même temporalité. Et on a bien ce mécanisme de collision. La Chine et les États-Unis rivalisent pour le leadership du 21e siècle. La Russie et la Turquie sont dans la reconstitution des empires du 19e, l'Empire russe ou l'Empire ottoman. L'Afrique est devant son décollage, donc c'est un peu la situation du 18e siècle. Et puis le monde arabo-musulman, lui, vit l'équivalent des guerres de religion des 16e et 17e siècles en Europe. Et simplement, tout ceci se passe de manière instantanée au vu au sud de tout le monde. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, ce qui donne la complexité de ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est qu'on a bien à la fois une dimension de guerre civile. Ensuite, dessus, l'affrontement entre sunnites et chiites. Encore au-dessus, les puissances régionales qui s'affrontent, l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite. Et enfin, les grands géants qui sont aussi présents, les États-Unis, la Russie, la Chine au moins à travers ses intérêts pétroliers. Donc c'est bien ça, une histoire universelle, des temporalités différentes et un choc, non pas des civilisations, mais un choc des valeurs, des nationalismes et des foi religieuses.
C'est la projection, en fait, à l'échelle du monde, de ce que nous avons connu à l'échelle européenne. En réalité, entre le traité de Westphalie et la Première Guerre mondiale, ce qui fait quand même un bout de temps, l'Europe a eu à gérer ce genre de contradiction. C'est le même genre de contradiction qu'il faut gérer à l'échelle du monde. Ça veut dire que ça laisse place pour la réelle politique. La réelle politique suppose beaucoup d'intelligence. J'espère qu'elle sera remplie. Mais la réelle politique, ça suppose par exemple, je voudrais en prendre qu'un exemple, de réfléchir à ce que sont les acteurs puissants et les acteurs durables au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Eh bien, je pense qu'il faut se dire que ce sont seuls les États qui ont 40 siècles derrière eux qui sont les points forts, c'est-à-dire l'Iran, donc la Perse. D'ailleurs, si l'Iran s'appelait la Perse, ça irait mieux. On la regarderait différemment. L'Égypte, évidemment, et d'une certaine manière, et à sa façon, Israël. Si on pense ça, on fait très attention dans la gestion politique que l'on a vis-à-vis de la péninsule arabique. C'est-à-dire qu'on cherche un équilibre beaucoup plus attentif avec l'Iran. Et dans mon petit bouquin, je cite un cas de figure provocateur. Je dis, qu'est-ce qu'aurait fait un Kissinger d'aujourd'hui ? Américain, parce qu'il faut être américain pour faire ça. Il serait allé à Téhéran. Et il aurait dit grosso modo aux Iraniens, on va faire le deal suivant. Vous allez renoncer au nucléaire beaucoup plus durablement que l'accord ne le prévoit. Mais en échange, vous annexerez le Qatar et on fermera les yeux. Mais vous souriez, mais je suis sérieux. En effet, le Qatar vis-à-vis de l'Iran, c'est Monaco vis-à-vis de la France. Sauf que c'est un Monaco avec lequel vous partagez vos réserves gazières. Et c'est un pays qui a évidemment qui a l'argent que les autres n'ont pas. Alors, je dis pas que c'est sympathique pour les Qataris. Je dis simplement qu'on va arriver à devoir faire preuve de réelle politique et d'une réelle politique qui va nous changer de la volonté d'être copains avec tout le monde en pensant qu'ils arrivent à être dupes de nos affaîtris.
Oui, mais alors justement, Alain, qu'est-ce que c'est de la réelle politique que de penser à une annexion possible du Qatar, ou une sorte de chimère? Parce que le Qatar, cherchant à se préserver de ses grands voisins, et notamment de l'Iran, mène une politique étrangère tous azimuts, investie partout, jusque dans les clubs de foot, jusque dans le PSG, précisément pour exister mondialement et pour éviter que pareil déconvenu ne lui arrive. Donc,
c'est un petit, je l'ai cité comme exemple provocateur. Oui. Le vrai sujet, c'est l'Arabie Saoudite.
Ah, d'accord.
Qui peut aujourd'hui parier que l'Arabie Saoudite existera encore dans 40 ans? En revanche, on n'a pas de mal à parier que l'Iran existera, l'Égypte existera et Israël existera. Bon, c'est cette région, la déstabilisation profonde de cette région, c'est l'avenir de la péninsule arabique. Non pas de ces hubs que sont les Émirats arabes unis qui se débrouillent très bien, très malins et ils ne sont pas menacés. Si, à un moment donné, on va dire, si le prix du pétrole est entre 40 et 50 dollars, je ne donne pas beaucoup de chances de survivre à l'Arabie Saoudite dans 20 ans. Ils ont quand même dévoré, quand le prix du pétrole était à 50 dollars, 20% de leurs réserves internationales pour combler le déficit budgétaire. Ils veulent changer de système économique, mais changer de système économique quand on a été une économie de rente, c'est à peu près comme quand les imbéciles qui étaient occupés au nom des États-Unis l'Irak pensaient qu'ils allaient établir la démocratie en deux coups de cuillère à peau. C'est le même mythe et la même illusion. Donc l'enjeu, il est là et il est... C'est un facteur d'incertitude. Mais si on a ça en tête, alors on s'occupe des gens stables et on fait alliance avec les gens qui sont là pour longtemps.
Avant de donner la parole à Nicolas Bavray, une question, c'est pourquoi un pays en crise économique devrait-il éclater ou disparaître ? Pourquoi ? Quelle est la raison profonde de la fragilité de l'Arabie
Saoudite ? Parce que c'est pas un pays. C'est tout.
D'accord.
Mais c'est pas un pays. Enfin, le colonel Lawrence et Philby leur ont fait croire qu'ils étaient un État. Vous avez quand même un tiers du pays, où sont d'ailleurs toutes les réserves pétrolières, qui sont chiites. Si on est entré dans une guerre de religion, ça provoquera des tensions. C'est l'Allemagne entre catholiques et protestants, il y a ça 400 ans.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette inquiétude, Nicolas Bavré ?
Sur l'inquiétude de ce qui se passe au Moyen-Orient, bien sûr, puisque, comme on disait, il y a tellement de couches de conflits accumulées que la probabilité qu'on aille vers la paix est assez faible. Je crois qu'il y a des formes de réelle politique qui sont déjà à l'œuvre, mais pas du tout dans le sens de ce qui a été indiqué, c'est-à-dire qu'on a une alliance aujourd'hui, un axe très fort entre l'Égypte, Israël et l'Arabie Saoudite, avec y compris des conseillers militaires israéliens qui sont en Arabie Saoudite, et un gros investissement stratégique pour résister à la pression de l'Iran qui est, grâce aux Américains, le très grand gagnant de tout ce qui s'est passé depuis le début depuis les années 90. D'ailleurs, est la première guerre du Golfe.
Et vous ne pensez pas que la question palestinienne peut empêcher ou arrêter ou limiter ce type de coopération
La question, palestinienne, elle est aujourd'hui là. Si on regarde, si on fait de la réelle politique, justement, la question palestinienne, elle est passée aujourd'hui complètement au second rang par rapport aux préoccupations, y compris des puissances arabes, parce que il faut aussi parler de la Turquie, qui est un acteur très important de cette région. Donc aujourd'hui, on est bien dans une logique de guerre avec une recomposition des alliances qui se fait pour l'instant autour, pour ou contre l'Iran. Parce que c'est ça, c'est le principal acteur. Est le principal gagnant, qui a quand même réussi à composer un empire chiite, dans lequel on a quand même maintenant, outre évidemment l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Hezbollah, une bonne partie du Yémen, Bahreïn. Donc c'est quand même un progrès très impressionnant. Le problème de l'Iran, c'est un peu celui de la Russie qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que la société et l'économie iranienne pourront supporter cette surexpansion impériale de l'Iran durablement?
Nous terminerons sur cette question, si vous le voulez bien. Alors, je rappelle le titre de vos livres respectifs, Alain Minc, Une humble cavalcade dans le monde de demain. Ce livre est publié aux éditions Grasset. Nicolas Bavré, Violence et passion, Défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle, aux éditions de l'Observatoire. Merci messieurs pour cette discussion passionnante. Vous trouverez les autres références bibliographiques sur le site réplique.franceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. La semaine prochaine, et je vous invite Alain Minc et Nicolas Bavré à écouter l'émission, puisqu'elle aura pour titre...
C'est le privilège des immortels.
Oui, voilà. L'émission aura pour titre « Faut-il avoir peur de l'Afrique ?» et mes invités seront Serge Mikhaïlov et Stephen Smith. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Antoine Viossa. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.